7h19, les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Marc.
Aujourd'hui, le regard japonais sur l'essor de l'économie chinoise avec votre invité Claude Meyer.
Qui est enseignant d'économie internationale à l'IEP de Paris. D'ailleurs, aux presses de Sciences Po, vous venez de faire reparaître Chine ou Japon, quel leader pour l'Asie. Et alors, c'est un livre très riche, évidemment, de réflexion, de mise en perspective historique et contemporaine. Et puis aussi, il y a beaucoup de repères très utiles pour tout le monde, repères chiffrés. Et donc, on rappelle que dans la hiérarchie des puissances, la Chine vient de doubler, je crois, c'est vers 2006. Donc en PNB, en valeur absolue, la France. Elle est en train de doubler ou de dépasser plutôt l'Allemagne, le troisième PNB mondial. Et puis un jour ou l'autre, elle dépassera le japonais. Alors cela dit, toute chose étant égale, il est évident que la Chine donc a aussi un certain nombre de faiblesses rapportées au nombre d'habitants. Le PNB chinois se retrouve au environ 123e rang sur 192 pays à l'ONU. Et puis d'autre part, de son côté, le Japon a aussi un certain nombre de faiblesses. Des crises intérieures à répétition depuis 1995, instabilité gouvernementale, scandale. Et puis là, il y a quelque chose dont vous parlez d'ailleurs aussi, c'est que le Japon traîne un boulet absolument considérable, c'est sa situation démographique. C'est une sorte, encore plus que l'Europe, et on n'a pas de leçon à leur donner, c'est une sorte d'hospice à peu près à l'image de l'Europe, mais un peu plus inquiétant pour l'avenir. Alors comment est-ce vu cette puissance chinoise remarquable ? Vue de Tokyo.
Alors, vue de Tokyo, effectivement, si on reprend d'abord le premier point que vous avez mentionné, le rattrapage accéléré de la Chine d'un certain nombre de pays développés, et notamment du Japon. En 2009, ça s'est joué sur un fil. Hein. Le PIB japonais ne dépasse le PIB chinois que de 3%. Et vraisemblablement, en 2010, ça sera l'inverse. Alors, comment est-ce vu de Tokyo ? Je pense, sur ce point-là, je dirais, il y a deux niveaux. Le niveau rationnel, je veux dire, comme toutes les économistes ou autres spécialistes, il n'y a pas de miracle à cela. Je veux dire, avec une population active 10 fois supérieure, il est assez logique que la Chine dépasse le Japon et bientôt les États-Unis, bientôt, ce serait plutôt vers 2030. Je dirais un plan plus profond et dans le ressenti japonais, je pense que là, il y a quand même une forme un petit peu de dépit. D'abord à cause de l'animosité entre les deux pays et leur population, mais aussi parce que ça renvoie le Japon à ses propres incertitudes, notamment sur son avenir. On a cette Chine conquérante à qui tout semble réussir, notamment en 2009 sur le plan économique et sur le plan stratégique.
Conquérante et arrogante d'ailleurs.
Et peut-être arrogante, du moins dans l'image qui en est donnée, pas dans la conscience, je pense, que les dirigeants chinois ont de leurs propres faiblesses. Et face à cela, un Japon anémié, vieillissant et qui doute de lui-même. Pour le dire d'un mot, la Chine embrasse l'avenir et le Japon y va à reculons. Donc voilà peut-être pour ce qui est de la position respective des deux économies. Alors comment de Tokyo voit-on cet essor extraordinaire de l'économie chinoise ? Je crois qu'on le voit de deux points de vue. En distinguant les horizons temporels. C'est une bénédiction à court terme, mais c'est aussi une menace et un défi à moyen terme. À court terme, c'est une bénédiction, et ça a été une bénédiction depuis que, effectivement, la Chine est rentrée à l'OMC, le commerce
en
chinois...
2001, donc.
En 2001, le commerce chinois a été multiplié par 4, et le Japon en a très largement bénéficié, puisque ses exportations vers la Chine sont passées de 30 à 109 milliards de dollars, soit 20% de ses exportations, ce qui fait que la Chine est maintenant pour le Japon le premier partenaire commercial. Il est effectivement le premier fournisseur de la Chine. Le deuxième point, c'est que, contrairement à la situation des États-Unis et de l'Europe, ces échanges, si on intègre Hong Kong, ces échanges sont équilibrés. Et on a une complémentarité provisoirement presque parfaite entre, d'un côté, la valeur ajoutée technologique du Japon, le coût de la main-d'œuvre en Chine. Donc, les exportations mutuelles sont parfaitement complémentaires. Alors, on peut se demander cette interdépendance si, je dirais, qui est dépendant de qui ? Et à première vue, c'est le Japon qui serait le plus dépendant puisqu'il fait 20% de son commerce avec la Chine, alors que la Chine n'en fait que 10%. En fait, de mon point de vue, en tout cas, la Chine est beaucoup plus dépendante. Pourquoi ? Parce qu'elle dépend des importations japonaises pour tout ce qui alimente la machine industrielle japonaise.
Et la plus-value des produits.
Chinoise, voilà. La Chine importe des composants, des machines à haute valeur ajoutée, etc. Et elle dépend également des entreprises étrangères d'une manière générale, qui représentent 50% des exportations et dans certains secteurs 75%, et notamment des entreprises japonaises, 1500 ou 1600, enfin les 1000 premières entreprises de l'archipel, ont des filiales en Chine.
C'est ça, Claude. Mais ce qu'il faut, c'est un peu la perspective, en tout cas, d'Europe, c'est le fait que la Chine, effectivement, est la plus grande usine d'assemblage, notamment, etc. Mais en même temps, la présence des entreprises étrangères, non chinoises, par définition, en Chine, est importante.
Absolument. Je pense qu'il faut garder ça toujours à l'esprit. Que, quand on parle, par exemple, de la Chine exporte, il ne faut pas oublier, prenons un exemple, hein, Dell, Toshiba, etc., Apple. C'est vrai que ça creuse les déficits commerciaux, mais d'un autre côté, au niveau des revenus d'investissement, ces sociétés, et y compris les sociétés américaines, dégagent des dividendes hein, qui compensent un peu au niveau de la balance des paiements américaine ou européenne le déficit commercial. Alors, je crois que les entreprises japonaises, la stratégie des entreprises japonaises en Chine est intéressante à observer parce qu'ils sont extrêmement sélectifs. Les investissements en Chine...
Par secteur.
Par secteur et extrêmement prudent. À la fois pour les secteurs et d'autre part pour ce qu'ils délocalisent. Ils sont tout à fait en flèche dans les négociations internationales pour ce qui est de la propriété intellectuelle. Et ne s'hasardent pas voir, des centres de recherche en Chine, des salles blanches, etc., pour éviter précisément une perte de valeur ajoutée, qui est finalement le seul atout du Japon face à la montée de la Chine.
On a tendance, comme souvent en Asie, en ce qui concerne les économies, et cela depuis très longtemps, à dire, au fond, on aimerait bien être dans 10 ans. C'est-à-dire que, à chaque fois, quel que soit le partenaire, l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée, d'ailleurs, etc., on se dit, ce serait intéressant d'être 10 ans plus tard.
Oui.
Donc là, ce n'est pas forcément souriant pour le Japon.
Alors, si on se projette 10 ans plus tard, alors là, c'est un exercice...
2020.
Là, c'est un exercice sans filet. Bien sûr, la Chine aura largement dépassé le Japon. Il reste à voir si au Japon, le changement d'orientation politique et d'équipe politique amènera un sursaut. Là, c'est assez mitigé actuellement. Dans 10 ans, ce qui est capital pour le Japon, c'est de maintenir cette avance technologique.
Voilà, merci beaucoup en tout cas de cette conclusion, Claude Meyer. Et on retrouvera donc sur le site internet franceculture.com les références de l'ouvrage avec d'autres, Chine ou Japon, quel leader pour l'Asie, presse de Sciences Po.
Merci Thierry Garcin, on vous retrouve demain et donc à consulter sur franceculture.com 7h27, Clémentine Règle son micro, petit jingle.